Nous sommes le jeudi 25 mai 2023 et vous écoutez le 9e épisode de la 6e saison du podcast « Faut pas pousser les ISO ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les ISO », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on parle de la magie de la photo instantanée. Nous avons le plaisir de recevoir la photographe Lisa Rose, grande adepte de ce procédé, avec qui nous allons revenir sur l'histoire de la photo instantanée, comprendre comment cela marche, explorer les solutions actuelles pour la pratiquer et voir à quel point elle peut être un média social et créatif. Cette émission est présentée par Instax, les appareils photo et imprimantes pour smartphone Fujifilm dédiés à la photo instantanée. Bientôt 10, Benjamin, bientôt 10, c'est la 9e émission. Je suis toujours ravi de te retrouver toutes les semaines, tous les mardis matins pour l'enregistrement de ce podcast hebdomadaire. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin?
Salut Arthur, bah ouais, écoute, ça va super bien. Je suis étonné finalement qu'on ait attendu 6 saisons pour aborder la photo instantanée. Un procédé aussi vieux presque que la photo.
Je ne sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps. Il y a aussi des sujets genre photo argentique qu'on n'a pas encore vraiment traité, qu'il va falloir qu'on s'y intéresse dans le futur. Mais bon, écoute, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Et puis pour parler de ce sujet ô combien passionnant, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à nos micros la photographe Lisa Rose. Bonjour à toi Lisa et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous surtout.
Alors Lisa, si tu le veux bien, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors tu es une artiste photographe portraitiste distribuée par Contour by Getty Images. Tu réalises un travail de commande pour la presse avec des portraits de personnalités du monde des arts et de la musique et tu signes de nombreuses pochettes de disques. Ton travail personnel a été exposé à de nombreuses reprises dans des lieux prestigieux, le Bon Marché Rive Gauche, le Musée Carnavalet, le festival Les Femmes s'exposent et plusieurs galeries. Actuellement, ton projet Les Filles gagnent du terrain, réalisé avec l'association Sine Qua Non dans le cadre du festival Forme Olympique Paris 2024, est exposé sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris. Il s'agit d'une série de portraits réalisés à l'instax de joueuses du Sine Qua Non Football Club.
Après, pour les filles gagnent du terrain, les joueuses de l'association Sine Qua Non, les photos vont se balader aussi dans le 11e, dans un stade, un city stade qui est là-bas aussi.
Ok.
Et on ne peut pas les rater. Lorsqu'elles se baladent, c'est des instax géants, donc on ne peut pas les louper.
Bon.
Et puis ajoutons quand même la parution de ton livre en 2018, La Parade Colorée, aux éditions du Chêne.
Exactement.
Que tu as eu la gentillesse de nous apporter ce matin et de nous dédicacer.
Ouais, belle dédicace avec un joli rose qu'on voit aussi en couverture.
En fluo, toujours du rose fluo.
Ouais, voilà.
Et là, c'est du 100 ISO.
Ah, merci de le préciser.
De toute façon,
on n'aime pas les pousser.
Il ne faut pas trop les pousser. Il ne faut pas trop les pousser, les ISO. Bon, voilà pour les présentations. On attaque l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance un boîtier, une optique et une nouvelle application. Sony met à jour son compact zoom ZV-1 et Canon lance une plateforme communautaire pour les passionnés d'images. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm annonce un nouveau boîtier et une nouvelle optique. On commence avec le nouveau XS20 qui vient naturellement remplacer dans la gamme le XS10. Il s'agit d'un boîtier hybride équipé d'un capteur stabilisé au format APS-C X-Trans CMOS 4 de 26 millions de pixels associé au processeur d'image X-Processor 5. On retrouve le système autofocus du X-T5 basé sur une intelligence artificielle et capable de reconnaître différents types de sujets, comme par exemple des animaux et des véhicules. Le boîtier permet de réaliser des vidéos en interne en 6,2K 30p et 4 de 210 bits Il dispose d'une prise micro-casque et est compatible avec une poignée vlog optionnelle, grâce entre autres à un écran totalement orientable. Le XS20 est un boîtier compact et léger, avec seulement 491 grammes sur la balance. Il exploite une nouvelle batterie qui lui assure une autonomie de près de 800 photos. Pour l'accompagner, Fujifilm annonce également une nouvelle optique. Il s'agit d'une focale fixe ultra grand angle 8 mm avec une ouverture maximale de f3.5. Cet objectif équivaut donc à un 12 mm. Il est composé de 12 lentilles réparties en 9 groupes avec 3 éléments asphériques et 2 en verre ED. Il mesure un peu plus de 5 cm de long et pèse environ 200 g. Bon point, il est possible d'utiliser des filtres circulaires avec un diamètre de 62 mm pour de la photographie de paysage. Et enfin pour terminer, Fujifilm lance également une nouvelle application smartphone, Fujifilm X App, pour les utilisateurs de boîtiers série X et GFX qui sera disponible dès le 25 mai. Cette application permettra d'utiliser les appareils en mode remote via le Wi-Fi, de transférer sans fil des images, de connaître l'arrivée des mises à jour de firmware et d'avoir une vision à la façon d'un journal intime de l'utilisation de son appareil. Le type de matériel utilisé, le nombre de photos prises, les lieux de prise de vue, etc., etc. dans le temps. Le nouveau Fujifilm XS20 sera bientôt disponible, fin juin pour être précis, et proposé au prix de 1 399 € boîtier nu. Deux kits seront également proposés avec un 15-45 mm au prix de 1 499 € et avec un 18-55 mm au prix de 1 799 €. Le Fujinon XF 8 mm f3.5 RWR sera lui disponible également fin juin et proposé au prix de 899 €. Sony continue de développer et de consolider sa gamme d'appareils conçus pour l'exercice du vlog avec l'annonce d'un nouveau compact, le ZV-1 Mark II. L'appareil reprend les principales caractéristiques de son prédécesseur et apporte quelques nouveautés en termes de conception et de fonctionnalité. On retrouve donc un compact qui exploite un capteur au format 1 pouce CMOS XMORE RS de 20 millions de pixels associé à une nouvelle optique zoom équivalent 18-50 mm. C'était un 24 mm sur le précédent modèle. L'appareil conçu pour le vlog dispose d'un écran totalement orientable et d'un système de micro à 3 capsules. Outre la nouvelle optique, les nouveautés du ZV-1 Mark II sont pour résumer la présence d'une interface tactile étendue, la possibilité de sélectionner la directivité des micros, la reconnaissance des animaux pour la mise au point et l'intégration des modes vlog cinématique et enfin l'arrivée d'une connectique USB-C. Le nouveau Sony ZV-1 Mark II sera disponible courant juin et proposé au prix de 1 000 €. Et pour terminer, un mot sur le nouveau Canon Club, la plateforme communautaire de Canon qui réunit tous les passionnés d'images, photos, vidéos et impressions, utilisateurs de produits Canon à travers l'Europe entière. Aujourd'hui, le Canon Club compte plus de 32 000 membres. Sur le club, on retrouve des groupes thématiques pour poster des photos et échanger avec les autres membres, des challenges et des galeries d'inspiration. On vous propose d'écouter Claire Caletta de Canon France nous présenter plus en détail ce que l'on peut trouver sur le Canon Club.
Alors concrètement, Canon Club, c'est une plateforme qui est accessible directement depuis notre site Canon et sur laquelle les membres vont pouvoir interagir en publiant leurs images, en commentant celles d'autres membres et en participant à des challenges qui sont régulièrement proposés par Canon. Et en ce moment, vous avez donc deux thèmes qui sont à propos donc sur le thème de la texture. Donc l'idée c'est de poster une de vos photos sur le challenge et l'autre qui est plus sur le thème de la vie sauvage, donc plus sur l'esprit de la photo animalière. Voilà, et les membres peuvent aussi profiter de contenus exclusifs tels que des tutoriels vidéo, des témoignages de nos ambassadeurs et d'offres promotionnelles qui leur sont dédiées. Donc, il existe 3 niveaux sur le Canon Club. Donc, le premier niveau qu'on appelle « Keep on Exploring », ensuite « Keep on Creating » et « Keep on Mastering ». Et chaque niveau déverrouille de nouveaux bénéfices. Ces niveaux, on les atteint comment ? En fait, en complétant votre profil, en enregistrant tous vos produits Canon sur votre profil et en interagissant dans la communauté, que ce soit en publiant vos photos, en commentant les photos des autres membres, vous gagnez des points et vous pouvez accéder au niveau supérieur. Moi, je terminerai juste en disant que Canon Club, ça a été lancé il n'y a pas longtemps, c'est tout nouveau, et c'est voué à évoluer avec ses membres. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Canon Club.
Pour vous inscrire au Canon Club, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de Canon, canon.fr/canon-club, et d'enregistrer un ou plusieurs produits Canon achetés au cours des 12 derniers mois. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Ce petit nouveau XS20, il a l'air quand même assez costaud, non ?
Oui, il est costaud. Bah, il est à l'image de ce qu'était le XS10. Et puis, ouais. On se souvient du XT30 quand était sorti le XT3. C'est une habitude, en fait, chez Fuji. Dans cette gamme-là, il y a une forme de ruissellement qui s'opère
des technologies.
Depuis le haut, ouais, des technologies. Donc là, ce qu'on a dans le XT5, alors pas tout, évidemment, hein, notamment la définition du capteur, on le retrouve à l'étage en dessous, et notamment la stabilisation du capteur. Et ça, c'est très chouette. C'était le cas sur le XS10. Déjà, mais c'est vrai qu'à un prix un petit peu plus accessible, c'est hyper intéressant, surtout des boîtiers qui restent hyper compacts.
Toi, Lisa, quand tu fais pas de photos instantanées, quand tu fais de la photo numérique, tu utilises quoi ?
Alors, en numérique, c'est vrai que j'en fais pas énormément, mais même en photo instantanée numérique, j'ai mon petit Instax. SQ20.
Ah oui, c'est une addiction en fait.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça.
On l'expliquera tout à l'heure, hein, mais il y a des modèles d'appareils photo instantanés qui font de l'Instax classique, mais qui peuvent aussi être utilisés comme un petit compact numérique.
Exactement.
Quoi.
Sinon, j'ai un petit Nikon V1 très vieux et que j'aime bien, qui est très très imparfait. Et c'est ça que j'aime chez lui.
Alors, parmi les actualités, moi je voulais aussi parler rapidement donc de DxO. Qui propose une énième mise à jour, nouvelle version de la Nik Collection. Hein, donc, c'est la version 6. Alors, pour rappel, hein, la Nik Collection, c'est une série de 8 plugins qui sont conçus pour la post-production photo. On va pouvoir traiter les couleurs, les tonalités, la netteté, faire du HDR, faire du débruitage et des corrections géométriques. Et ces plugins, en fait, on les utilise avec les logiciels Adobe que sont sur ordinateur, Lightroom classique et Photoshop. Alors, au niveau des nouveautés de cette version 6, il y a une amélioration de la fameuse technologie des U-Point qui est hyper pratique à l'usage, un nouveau filtre Nik Color Effects, une nouvelle interface pour Nik Define. Si, pour ceux que ça intéresse, hein, ils peuvent aller se rendre sur le site de DxO. La Nik Collection 6, elle est proposée au prix de 149€ et les utilisateurs des versions précédentes, c'est-à-dire 4 et 5, peuvent eux faire juste une simple mise à jour au prix de 79€.
Oui, cette collection, elle a quand même été lancée en 95. Hein. Ça fait 28 ans qu'elle existe. Elle est passée entre les mains de Google. Désormais, elle est dans les mains de DxO qui l'entretient de fort belle manière. Précisons, donc, comme tu l'as dit, effectivement, ce sont des plugins qu'on peut utiliser avec des logiciels comme Photoshop ou Lightroom, mais on peut aussi les lancer de manière autonome.
Il y a des versions standalone
absolument,
de tous ces logiciels-là.
Oui, c'est-à-dire que quand on les installe, on y accède directement. Et puis, parmi elles, puisqu'on va aujourd'hui parler d'instantané, il y a le plugin Analog FX qui simule toute une batterie de films un petit peu anciens et qui est, ma foi, fort sympathique.
Bon. Et Benjamin, tu voulais nous parler aussi du projet en cours de Jean-Christophe Béchet.
Oui, notre ami, le photographe Jean-Christophe Béchet, qui mène actuellement une campagne, qui bat la campagne avec un financement participatif pour concevoir son prochain livre qui s'appellera Sauvage Matérialité, dont la sortie interviendra en même temps que l'exposition L'épreuve de la matière à la BNF François Mitterrand au mois d'octobre. Il y participera aussi, hein, cette expo. Alors, dans ce livre, il compte rendre hommage à tous les types de matérialité photographique. Donc, vaste projet. Hein. Argentique, numérique, chimie, encre, polaroïde, impression offset, procédés anciens. On en reparlera de vive voix avec lui dès la semaine prochaine.
Oui, puisqu'on l'aura à nos micros pour une émission, allez, je l'annonce tout de suite, dédiée à la photographie numérique noire et blanc.
En attendant, vous pouvez aller découvrir le projet sur la plateforme Ulule en tapant Sauvage Matérialité. Il reste à peu près une quinzaine de jours pour participer.
Bon, il nous en parlera plus en détail la semaine prochaine. Ça marche. Merci Benjamin. On clôture le Flash Actu cette semaine sur ces mots. Et on attaque ta chronique hebdomadaire, ta story. Et cette semaine, tu nous parles de la première édition d'un festival photo consacré à la nature. La story vous est présentée cette semaine par Instax, les appareils photo et imprimantes pour smartphone Fujifilm dédiés à la photographie instantanée.
Un festival photo 100% nature à Chamonix. L'idée coule de source, mais encore fallait-il la concrétiser. Photographe depuis 40 ans, spécialiste de la haute montagne, auteur de nombreux livres et propriétaire d'une galerie au pied du Mont-Blanc, Mario Colonel fait partie des initiateurs du projet. En première ligne face au réchauffement climatique, il souligne l'urgence de repenser notre rapport à la montagne en termes de loisirs. Et, pour lancer cette première édition, il peut compter, avec les organisateurs, sur l'expérience et le soutien du plus prestigieux des festivals de nature.
Je suis évidemment concerné par tous les problèmes climatiques parce que je retourne sur des endroits que j'ai photographiés il y a 30 ou 40 ans et je constate avec effarement l'évolution des glaciers, des corniches, enfin de tout ce qui donnait la beauté de la montagne. Et parfois, je suis surpris par simplement le message qui est véhiculé par Chamonix encore aujourd'hui, c'est-à-dire les sports extrêmes, de voir des jeunes qui sautent en hélico au-dessus du Mont Blanc, alors qu'on a une nature exceptionnelle et qu'aujourd'hui, le message, c'est de défendre cette nature. Avec un collectif de photographes, on s'est lancé dans l'idée de monter un festival qui donne la part belle à la nature, et qui soit un grand festival parce qu'on a entre autres le soutien de Montier-Ander qui nous loue des expositions, qui nous aide aussi sur toute la partie création administrative du festival. Ils sont vraiment présents. Je crois qu'ils ont envie de nous aider parce que peut-être qu'il y a aussi une forme d'enthousiasme qu'on a réussi à leur transmettre. Et ils ont aussi la même conviction que la beauté de la nature, surtout dans cet endroit où il suffit qu'on lève le doigt pour voir les glaciers et leur diminution, leur retrait, de voir ce que la montagne devient en premier lieu. Mais ils ont envie de participer à l'idée de faire évoluer le message, non pas en alarmant encore plus les gens, mais en disant « écoutez, cette beauté merveilleuse, ce monde extraordinaire, il faut absolument le protéger ». Et on lance donc le 21, 22, 23 octobre notre premier festival, mais qui a déjà de l'ampleur. Il y a du beau monde qui est attendu et surtout on veut créer un grand esprit nature autour des photographes et autour de la beauté du monde.
Toute la vallée est concernée, les communes de Servoz, Les Houches et Valorcine, des noms bien connus des participants à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, accueilleront des expositions, projections, rencontres et workshops. Un concours photo sera organisé autour de 5 thématiques. Parmi les membres du jury figure Éric Bouvet, qui poursuit son travail à la chambre en haute altitude quand il ne couvre pas les zones de conflit. Le jeune parrain de la première édition du Chamonix Photo Festival est un habitué de la vallée où ses images sont exposées et où il se rend régulièrement.
C'est particulier pour moi parce que déjà avec Mario, on travaille ensemble depuis pas mal d'années et que mes photos sont exposées dans sa galerie à Chamonix et que c'est un lien qu'on a tous les deux avec cet endroit. Et que ça fait pas mal d'années que je viens tous les hivers dans la vallée, même depuis très longtemps, pour photographier des animaux dans la neige et même en été pour voir des gens parce que je commence à connaître pas mal de gens ici que j'apprécie beaucoup. Et en même temps, c'est un endroit où il se passe plein de choses, où il y a beaucoup de tourisme, où il y a une pratique de la montagne qui est très sportive et de performance, qui est très différente de mon métier où je dois juste m'asseoir sous un arbre et regarder ce qui se passe. Et donc le festival voudrait aussi permettre de créer ça, de montrer qu'on peut aller dehors sans faire des performances incroyables, mais sinon celle de s'asseoir et de regarder, et d'attendre. Et qu'on pense, nous, que c'est un super moyen de recréer un lien direct avec notre environnement et cette nature qui était pour l'instant juste un terrain de jeu. Ouais. Donc voilà, donc je suis content si mes images et mon travail peuvent participer à ça, là, dans ce festival.
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Jérémy Villet, à qui nous avons consacré une émission au coin du feu au mois de décembre dernier, juste avant son expédition en Antarctique. Une autre expérience de la glace pour lui.
C'était encore plus émouvant que prévu. Donc déjà, il faut imaginer qu'on était 7 sur un bateau, mais surtout, on était pendant 2 mois sur la mer. Donc imaginez 2 mois sans dormir sur terre, sans même poser les pieds à terre, parce que à chaque fois qu'on allait à terre, en fait, on était sur de la glace ou de la neige. Donc j'ai passé 2 mois les pieds sur l'eau, dans tous ces états, on peut dire. Et moi, j'étais un peu dans tous mes états aussi, parce que c'est déjà bouleversant d'être sur l'eau pendant 2 mois, traverser les mers du sud qui sont très agitées. On se sent super vulnérable et on vit dans un endroit qui est très vulnérable aussi, qui paraît sublime. C'est comme si vous voyez la vallée de Chamonix qui sort de la mer à plein d'endroits. Donc, on a longé la péninsule antarctique à la voile pendant 2 mois et c'était vraiment très émouvant. Et en même temps, c'était fou de voir des baleines qui viennent vous voir tous les jours, des manchots par milliers dans des colonies, cette espèce de gros château de neige. Toutes les montagnes sont remplies de glaciers. C'est, c'est très bouleversant. Donc voilà, j'en ai fait quelques photos. J'espère pouvoir partager un jour. Mais c'était bouleversant vraiment.
Nous suivrons de près l'actualité de Jérémy dans les mois à venir, à commencer donc par la première édition du Chamonix Photo Festival.
Bah dis donc, Bouvet, Villet, c'est du beau monde hein, pour cette première édition de ce festival. Comment ça va se dérouler? Ça va être un truc payant? Ça va être en accès libre? Ça se passe quand?
Oui, alors ça aura lieu, donc Mario l'a dit dans une de ses interventions, ce sera du 21 au 23 octobre 2023, donc ce sera avant Montier-Ander, qui est donc partenaire de l'événement. Donc c'est un bon sponsoring, un beau partenariat pour cette première édition. Et il faudra effectivement acquitter un ticket de 5 euros par visiteur et par jour. Donc ça va durer 3 jours et il faudra payer cette somme-là.
Oui, a priori, symbolique, ouais.
Symbolique, il y aura peut-être des passes qui seront proposées, je ne sais pas. D'ici là, il y a encore pas mal de choses à organiser. Il est question d'un concours avec 5 thématiques, on ne les connaît pas encore, mais tout ça va venir au fur et à mesure. Apparemment, les bénévoles aussi de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est l'événement phare de Chamonix, chaque année seront mis à contribution lors du festival. On peut s'attendre à un très très bel événement. Puis à l'automne, les couleurs là-bas sont magnifiques et le spectacle devrait être au rendez-vous. Les organisateurs tablent sur 5 à 6 000 visiteurs.
Ah oui, quand même pour une première édition.
Donc ils sont ambitieux. Ouais.
Bon, bah écoute, on souhaite tout le succès possible et imaginable à ce nouveau festival dédié à la photo de nature qui se déroulera donc en octobre dans cette charmante ville de Chamonix. On clôt la story sur ces mots, on fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion avec la photographe Lisa Rose sur la photo instantanée. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
Mon premier immortalise chaque instant de la vie. Mon second est un plaisir à partager. Mon tout est à prendre et à donner. Réponse, une photo Instax.
Découvrez l'univers Instax et sa gamme unique de produits et d'accessoires dédiés à la photographie instantanée. Appareils photo, imprimantes pour smartphone, films personnalisés, albums, toute une philosophie photographique pour célébrer avec style et spontanéité les instants précieux de la vie. Rendez-vous sur instax.eu/fr pour découvrir Instax.
Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la photographe Lisa Rose pour une grande discussion autour de la magie de la photo instantanée. Alors, en guise d'introduction, on vous propose d'écouter les témoignages de fans de photos instantanées. Nous nous sommes rendus au pop-up store Instax il y a quelques semaines et avons laissé traîner nos micros parmi les visiteurs. On remercie donc Laura, Chloé, Hugo, Clémentine et Estelle pour leurs témoignages.
J'accorde une très grande importance aux photos développées instantanément parce que... C'est authentique et en fait la photo elle est bourrée d'imperfections et c'est ça qu'on aime. La luminosité ne correspond pas, le visage où on voit un bout de quelqu'un et en fait c'est ça qui fait, je sais pas, c'est naturel en fait.
Ouais, ça immortalise un moment qui est vraiment naturel et tu l'as avec toi dès l'instant et bah, ça y est, le souvenir il est déjà créé.
Mais on arrive à plonger dans la photo en fait et ça recrée du mouvement et... je sais pas, par rapport à une photo où on va vraiment poser, où on va refaire plusieurs fois, là on peut pas la refaire plusieurs fois. Donc, et puis moi j'adore prendre des photos par exemple en soirée et chacun repart avec sa petite photo et on peut l'emmener partout, on peut la mettre dans son portefeuille, on peut l'accrocher sur le frigo et c'est là quoi, on n'a pas à réfléchir, il faut la développer, il faut la mettre dans un album, non elle est juste là quoi.
Alors moi, généralement, les Polaroids, je les utilise pour mon travail personnel que j'ai envie de montrer ou pas par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas très instantané ce que je fais avec les Polaroids. C'est plus des shootings photos ou des backstage, des behind the scenes pour vraiment apporter l'aspect instantané. Plutôt backstage, genre vraiment behind the scenes.
Et moi, ça va plus être pour marquer un moment T. Je vais être en soirée avec des amis ou à un endroit où j'ai pas l'habitude d'aller et je veux plus immortaliser le moment. Du coup, je vais sortir mon Polaroid, prendre une photo et ça évite d'avoir 15 000 photos comme on fait avec nos téléphones et on se perd dans le moment.
J'ai toujours beaucoup aimé la photo et c'est vrai qu'Instax, c'est un système qui est assez sympa avec les photos instantanées et je trouve ça chouette aussi le petit instant suspense de est-ce qu'on a réussi la photo ou pas. Et du coup, j'en ai pas encore, mais... c'est un projet d'en avoir un, hein, donc je venais prendre des petites informations sur les appareils photo. Alors, on a un peu l'aspect vintage quand même qu'on aime bien et bah, c'est un format qui est assez différent aussi de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, je trouve. Et du coup, ça permet de garder cet aspect antérieur et je trouve ça assez chouette. Et les appareils photo ont aussi une apparence qui est très sympa, je trouve, pour les jeunes aujourd'hui, enfin même pour les pas jeunes d'ailleurs. Et du coup, je trouve que c'est, ouais, c'est la mode tout ça et c'est une ambiance sympa, je trouve, quand on fait la petite photo comme ça. Puis c'est quand même léger, on peut l'emmener partout avec nous et c'est un aspect qui est aussi pratique, qui est non négligeable.
Bah, ils ont tout dit, les jeunes, là. Hein. Franchement, ouais, on peut arrêter l'émission, là.
Bah, moi,
ils
j'ai
ont tout échiqué.
J'ai absolument rien à ajouter.
Moi non plus.
C'est brillant.
C'est très bien.
Enfin, en tout cas, ça montre bien que bah, les jeunes, hein, vraiment, se sont emparés de ce phénomène photo instantanée. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la photographie instantanée, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie de l'histoire avec un grand H de la photographie. Aujourd'hui, on le comprend, elle s'adresse principalement au plus grand nombre, au grand public pour un usage amateur, même si certains artistes photographes dont tu fais partie, Lisa, continuent de l'utiliser dans leur travail. Hier, la photo instantanée avait aussi, et peut-être même avant tout, un usage professionnel. Elle était utilisée par exemple dans les studios avec des appareils argentiques, moyen format ou grand format, des chambres, et servait par exemple à réaliser des tirages de contrôle avant d'exposer du film. C'était un peu le moniteur LCD des appareils argentiques. Elle a été apprivoisée également par de nombreux célèbres artistes. J'en citais quelques-uns, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, David Hockney, pour ne citer que.
Helmut Newton aussi.
Helmut Newton aussi.
Formidable livre chez Taschen qui s'appelle Polaroid.
La photo instantanée, c'est donc un procédé photographique particulier. Un procédé initialement argentique qui permet d'obtenir en quelques minutes après la prise de vue une photographie positive sur un tirage papier. Alors, il y a quand même quelque chose de magique qui s'opère avec la photo instantanée. C'est quoi qui rend magique, à ton avis, Lisa, ce procédé ?
Je pense qu'il y a quelque chose de très... que ce soit une personne de 1 an à 99 ans, c'est vraiment des vertus incroyables parce que ça rend très heureux. Et qu'il y a quand même quelque chose d'une sensation à chaque fois de curiosité. C'est très interactif. Et c'est vraiment un procédé qui quand même est une chimie quand même extrêmement complexe à la base, qu'on oublie totalement. Et il y a un côté tellement simple qui est juste très essentiel finalement.
On a parlé de l'histoire de la photographie avec un grand H. Dans l'histoire de l'instantané, avec un grand H, on peut citer aussi Edwin Herbert Land, qui est à l'origine de toute la conception, finalement.
L'inventateur, ouais.
Bah, c'est tout simplement l'inventeur de la société Polaroid. Hein. Donc, c'était en 1937 et c'est lui qui a posé les bases de la photographie instantanée. La légende veut que c'est sa petite fille de 3 ans qui lui aurait demandé pourquoi il n'était pas capable de lui montrer la photo qu'il venait juste de prendre d'elle, en fait.
Parce qu'il n'avait pas de smartphone à l'époque.
Et suite à ça, non, effectivement, en 1943, il n'avait pas de smartphone. Et suite à ça, il a planché, en fait, sur tout le projet. Mmh. Et puis, en 1947, il a dévoilé pour la première fois sa technologie lors d'une réunion annuelle à l'Optical Society of America. Et le premier prototype du lens caméra était capable de produire une image en moins de 60 secondes. Et okay. C'était les débuts de la photographie instantanée. Mmh.
Mais c'est quand même assez extraordinaire ce procédé. Et puis même avec les appareils actuels, on a toujours ce côté, on voit apparaître progressivement l'image sur le papier. C'est un tirage papier. Hein. Les jeunes, ils ont moins l'habitude d'avoir des tirages photographiques papier entre leurs mains. Et puis c'est un tirage unique, on ne peut pas faire deux fois la même.
Y a ça, il y a la magie du tirage papier, donc de cette matérialité, et il y a le culte de l'objet aussi, on l'a entendu dans les petits témoignages, puisque y a un petit revival, hein, comme l'argentique d'ailleurs, de ces objets hein, avec un petit côté vintage qui séduit même les plus jeunes.
Pourquoi, Lisa, toi, tu as décidé de travailler régulièrement avec ce procédé ?
C'est vrai que c'est une invention quand même extraordinaire de Edwin Land, qui est quand même assez fascinante, et on peut vite, très vite oublier la technique. C'est vrai que moi, je suis plus sur une photo très instantané, très, que je ne maîtrise pas. J'adore justement laisser place au hasard, selon la lumière, selon plein de facteurs qu'on ne maîtrise absolument pas. Et c'est vrai que la photo argentique et encore plus instantanée me procure justement ces sensations extrêmement... Ouais, c'est très joyeux en fait comme photo. Je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant. Et c'est vrai que l'instantané, c'est très simple. Parce qu'on a l'impression que c'est très simple, on appuie, mais en fait, on a tout un petit laboratoire et des petits laborantins avec soi. Et on a cette photo qui ou va révéler un aura ou quelque chose. Et c'est ça que j'aime énormément dans la photo instantanée. C'est de ne pas maîtriser, finalement.
Pourquoi, selon vous, c'est les jeunes qui sont les principaux utilisateurs, adeptes actuels de la photographie instantanée? Question que je pose à tous les deux, Lisa et Benjamin.
Il y a quelque chose d'interactif, je pense, finalement. Et puis, c'est vrai qu'on s'est un peu... Il y a une espèce de boulimie aussi dans les photos numériques, les appareils. Et là, justement, avec la photo instantanée, on doit peut-être plus réfléchir à son cadre. Enfin, on réfléchit un petit peu plus à faire une photo que de déclencher tout le temps.
Oui, puis il y a cette volonté de ralentir un petit peu le flux. Hein. Ils l'ont dit aussi dans les témoignages. Et de pouvoir afficher... Finalement, il y a un motif aussi de décoration, hein, d'ornement avec ces photos qu'on peut prendre. Ça peut être le temps d'une soirée et ça fonctionne super bien. Ça peut être des souvenirs qu'on laisse. Et finalement, là encore, ce besoin de matérialité dans ce monde numérique, finalement.
Ouais, c'est une autre cadence, c'est un autre rapport au temps, finalement. On prend un autre moment, un autre temps qui est assez, qui est un peu ralenti, finalement, par rapport à toutes les technologies de maintenant et ces boulimies d'image, quelque part, je pense.
Oui, puis il y a le temps aussi que l'image se révèle, et finalement, cette petite magie de l'instantané, elle s'opère à ce moment-là, donc plus ou moins longuement selon les procédés. Avec les Instax, ça va quand même relativement vite, et c'est vrai que bah, pour les jeunes, c'est fascinant.
Et puis, les jeunes aussi, ces générations-là, elles n'ont pas connu, finalement, la photographie argentique comme nous, mon cher Benjamin, on a pu encore connaître un petit peu. Mais par contre, ils ont toujours vu traîner des polas dans les archives photos de la famille, au cinéma, dans la pop culture. C'est-à-dire, cet objet, il est quand même iconique et hyper présent. Donc, c'est une manière un peu d'aller toucher un peu le passé, le côté nostalgique de cette époque-là où les choses étaient peut-être un petit peu plus simples que maintenant. Parole de Yeuve.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'âge d'un Astix 70, donc...
Je l'ai, d'ailleurs. J'aime beaucoup, mais ça, on y reviendra. Non, mais ils ont l'âge de... Enfin, ils ont la possibilité avec ça de mettre les mains dans la chimie sans mettre les mains dans le bac. Mais surtout... à des tarifs qui sont bien plus accessibles aussi. C'est vrai que là, la photographie instantanée, c'est pas le même coût que développer des pellicules argentiques.
Hein. Ouais,
là,
ça reste coup, quand même...
C'est pas donné.
On va en parler, hein, mais... Bon.
Mais ça reste accessible, surtout avec la possibilité offerte par certains appareils de pouvoir sélectionner ces images avant de les tirer pour éviter de faire n'importe quoi et d'obtenir des images ratées.
Mais alors... Bien sûr, hein, comme pour beaucoup de monde, la photo instantanée, ça rime souvent avec le nom Polaroid. Hein, donc tu l'as évoqué, hein, l'inventeur de ce procédé. Alors, Polaroid qui s'est transformé progressivement en Pola. Et il y a plein de gens qui parlent de photographie instantanée avec ce terme-là, Pola, sans savoir qu'ils sont en train de faire référence à une marque. Et d'ailleurs, c'est pas rare de voir arriver des gens dans les pop-up Instax ou dans les magasins demander des Pola alors qu'en fait, ils veulent des films pour leur Instax. Et l'histoire de Polaroid, en plus, elle est assez fascinante hein, parce qu'elle est pleine de rebondissements et on devrait et on fera très probablement une émission entière dédiée à ça.
Oui, il y a eu pas mal de rebondissements, mais à la base, Polaroid, c'est une société qui se concentrait sur un matériau polarisant qui servait à fabriquer des lunettes de soleil.
Ah bon ?
Eh oui, et le nom de la société vient de là en fait et fait référence au polariseur. To polarize en anglais et du suffixe oïd renvoyant une certaine idée de ressemblance. Voilà pour la petite histoire.
Aujourd'hui, en plus des films instantanés, des appareils photo instantanés, ils font des enceintes Bluetooth MP3. Bon, ça se disperse un petit peu, on en reparlera.
Non, mais il y a toute une émission qui peut être faite sur le sujet.
Éventuellement.
Et l'épopée Impossible Project, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, très intéressante.
Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs hein, qui proposent cause de la photographie instantanée et de manière différente. Évidemment, à l'heure actuelle, le plus connu, c'est Fujifilm, avec son fameux écosystème Instax, mais il y a aussi l'homographie, il y a Canon, il y a Polaroid, on en a parlé, et il y a même Leica. Alors certains, ils proposent des appareils.
Leica fait des pots là.
Certains proposent des appareils, d'autres des films et d'autres encore les deux. Fujifilm, hein, pour rentrer un peu dans le détail, propose donc des appareils photo Instax et des films argentiques Instax et vont même un peu plus loin puisqu'ils ont développé des mini imprimantes. Conçus pour les smartphones, qui permettent donc d'imprimer les photos qu'on a prises avec son smartphone sur des films Instax. Canon, c'est différent. Ils ont de la photographie instantanée, c'est toute la série des Zoé Mini. Alors là, ce n'est pas de l'argentique, c'est une autre technologie qui s'appelle Zero Ink, que d'ailleurs Polaroid utilisait aussi à une époque, et qui rend des petits formats, c'est des petits autocollants, c'est assez rigolo. Leica, lui, il propose un appareil uniquement, il s'appelle le Sofort. Zofort.
Je veux dire immédiatement en allemand.
Et lui, il fonctionne avec des films Instax. On a l'homographie, évidemment, qui a toute une gamme d'appareils photo instantanés qui fonctionnent avec des Instax. Et enfin, Polaroid, qui lui, depuis assez peu, finalement, repropose donc des appareils et des films. Quoi qu'il en soit, c'est quand même Fujifilm qui a lancé les Instax à la fin des années 90, qui en quelque sorte a donné une espèce de seconde vie à la photo instantanée grand public après la fin de Polaroid en 2008. Je vous propose qu'on écoute le témoignage de Marion Wedjedi de Fujifilm France, qui nous parle de l'histoire de la marque avec la photo instantanée et de l'arrivée de cette fameuse technologie Instax.
Fujifilm, donc une entreprise principalement connue pour ce qui est lié au développement de la chaîne de l'image et notamment sur la partie argentique avec une technologie qui est vraiment de pointe. Donc dans les années 90, en effet, ils vendaient beaucoup de films, notamment du format 135. Et c'est justement fort de ce succès-là que Fujifilm s'est après un petit peu orienté sur l'instantané un peu plus ludique, un peu plus fun, en lançant son premier Instax dans les années 90, donc en 98, avec le premier Instax qui était le Mini 10. Donc fondamentalement, c'était issu d'une idée très simple, c'était surtout associer le côté pratique d'un appareil qu'on peut amener partout avec soi, comme on pouvait le voir notamment avec les appareils prêts à photographier de l'époque, mais aussi rejoindre la passion qu'avaient les utilisateurs des photos de petit format, et notamment très apprécié au Japon. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous rendre au Japon, mais on peut voir des cabines un petit peu partout dans les rues où on peut obtenir une petite photo un peu customisée. Donc c'est vraiment parti de ces deux postulats-là, le côté pratique et le côté tangible d'une photo papier. Donc c'est là en fait qu'est né le concept cool nomade de l'Instax. Alors oui, c'est Fujifilm qui fabrique ses propres films, qui dispose de sa propre chimie. D'ailleurs l'usine, il n'y en a qu'une et une seule, elle est située juste à côté du mont Fuji. Historiquement, en fait, elle était dédiée aux pellicules pour le cinéma et la photo vraiment argentique. Et maintenant, elle est 100% dédiée, enfin, il y a une ligne en tout cas qui est 100% dédiée à l'Instax, et ce, pour tous les films consommés dans le monde entier. Alors, c'est vraiment la force, encore une fois, de Fujifilm et d'Instax, c'est qu'on a réussi à proposer, en fait, une gamme de produits assez large, qui justement peut répondre à tous les besoins des utilisateurs. Donc ça peut vraiment aller d'une cible très jeune, un enfant par exemple qui va utiliser son appareil photo lors d'un goûter d'anniversaire, mais aussi bien les nostalgiques qui justement ont connu cette période de l'argentique et qui ont envie de partager des choses avec les générations plus jeunes. Ça va être les personnes, les baroudeurs qui voyagent, qui ont besoin en fait de laisser une trace tangible pour des voyages qu'ils réalisent et des personnes qu'ils vont rencontrer. Et la force d'Instax, c'est qu'aujourd'hui on est présent sur trois catégories de produits, les appareils photo très analogiques qu'on connaît tous, qui nous parlent, les digitaux, donc là ça va être des produits qui, in fine, produisent une photo papier, mais sur lequel on va pouvoir apporter des modifications, on va avoir un écran de prévisualisation, des filtres, enfin des choses un peu plus photographiques, et aussi plus récemment sur les imprimantes pour smartphone. Donc là, on va un petit peu à l'envers, on va utiliser toutes les photos qu'on a dans son téléphone et les imprimer sur du papier Instax.
C'est vrai ça d'ailleurs que finalement l'un des réseaux sociaux les plus connus et utilisés des photographes, il a été inspiré à la base par la photographie instantanée, hein, Instagram, ouais. Qui au début ne permettait que de mettre des photos au format carré, c'est rigolo quand même.
Exactement, ouais, c'est vrai.
Même l'appli emblématique Hipstamatic à l'époque sur les iPhones, elle fonctionnait beaucoup comme ça aussi. Hein.
C'était ouais. Ça sortait un espèce de...
Ouais, format carré, puis avec ouais. Des espèces de rendus analogiques qui finalement faisaient pas mal penser à l'instantané aussi.
Alors, pour bien comprendre finalement l'offre photo instantanée actuelle, il faut d'abord commencer par s'intéresser au format de la photo qu'on va vouloir réaliser. Il existe en réalité 4 formats qui sont disponibles sur le marché, dont 3 chez Fujifilm. Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer ces 3 formats-là ?
Alors, les formats, c'est vrai qu'on est passé de très peu de... Enfin, d'une espèce de multitude de formats à maintenant, effectivement, tout c'est extrêmement restreint. En Instax, effectivement, il y a 3 formats... un format carré assez petit.
Un square,
exactement. Ouais. Il y a le wide.
Carré, donc, aussi. Restons en France. Ah,
oui. Oui, non, mais ils l'appellent square. Oui, le marketing, il y a écrit Instax square.
Le marketing aime bien l'anglais. Ouais.
Parce que même l'appareil est square. Tout est square.
Alors, le format carré, c'est 6 par 2 de côté. 6,2 cm. Ensuite, tu dis le wide.
Il y a le wide aussi, qui est... donc le large.
Voilà. Merci.
Qui lui fait 6,2 par 9,9 cm. Et pour terminer, peut-être le plus célèbre et le plus utilisé.
Le plus petit.
Voilà, c'est l'Instax Mini qui lui propose des petites photos format paysage en 4,6 par 6,2 cm. Ça, c'est pour la partie Fujifilm. Et puis, on a aussi Polaroid qui a relancé la production donc de ces célèbres films en format carré, du coup un petit peu plus grand, 7,9 par 7,9 cm. Et ce qui est cool avec les films Polaroid, notamment les formats SX70-600, c'est qu'on peut les utiliser avec des appareils hyper anciens, puisque c'est des films qui, alors écologiquement, c'est zéro pointé, hein, que soyons clairs, qui intègrent une batterie qui permet du coup d'alimenter l'appareil, de faire fonctionner tout le mécanisme qui est nécessaire à la production de la photo.
Oui, complètement. Alors avec une cartouche Pola, par contre, on peut réaliser que lui, c'est instantané. Hein.
Ouais, contre 10 avec les autres. Les formats.
Et le coût est très élevé, il faut le dire quand même. Hein. Lui, instantané Pola, c'est environ 20 €. Hein. C'est
voilà,
pas donné.
C'est-à-dire que voilà.
Calculer son coût quand même.
Chez Polaroid, on est entre 2 et 2,5 € la photo, alors que chez Fujifilm, on est plus autour des 1 €. La photo, bon, c'est évidemment moins cher chez Fujifilm, mais ça reste cher quand même d'une manière générale. Lisa, hormis tous les formats là qu'on vient de citer, est-ce qu'on trouve encore des formats plus grands ? Qu'est-ce qu'on fait vraiment à la grande époque de la photo instantanée en 4-5, en 20-25, ça existe encore ça ?
Non, malheureusement, c'est terminé. Et puis après, c'est quoi ? C'est en 2016, donc Fuji a arrêté ces formats qui étaient pour un public professionnel.
Ouais.
C'est format 100. Et puis avant, c'était Polaroid en 2008. Donc ça fait que tu pleures et en 2008 et en 2016 à chaque fin de film. Mais c'est vrai que tout ce qui est grand format, et puis là, Impossible Project, ça a encore rechangé. Donc c'est vrai qu'on suit, c'est plus complexe à suivre. Et puis à chaque fois, c'est comme des espèces de chimie où c'est vrai, on s'est rendu compte. On revenait totalement à zéro, finalement. C'est ça qui est... c'est vraiment un espèce de petit laboratoire. Donc à chaque fois, l'invention de Land, elle est extraordinaire, justement, par ce principe. Et c'est vrai que Fuji, c'est très stable, finalement, comme film.
Et toi, sur ton bouquin, tu as bossé en grand format, mais tu n'as pas gardé quelques stocks de,
alors, j'en
de
ai.
Films.
Alors, c'est effectivement, c'est fait à la chambre 4x5, qui est transformée pour accueillir un dos Polaroid ou un dos Fuji. Donc, effectivement, c'est des formats, des films qui sont totalement périmés. Donc, ça pouvait fonctionner, comme pas du tout. Donc, oui, ils sont très, très vieux, ces films. Mais c'est ça qui est assez amusant, d'ailleurs.
Et c'était quoi le temps de développement? Parce que là, quand tu photographies M ou quand tu photographies Léa Seydoux ou Cédric Villani, Vanessa Paradis et autres, tu te laisses la possibilité de foirer une photo à ce moment-là?
Ah bah oui, complètement, puisque c'est mon appareil et c'est vraiment la pellicule qui va décider à ce moment-là si ça va se révéler ou pas. Et en plus, c'est très particulier ce travail avec la chambre. C'est qu'à partir du moment où je mets mon dos Polaroid, je ne peux plus vérifier, changer ma netteté. Donc c'est vrai que c'est ça qui donne aussi un côté très posé à mes photographies. C'est que mes modèles ne doivent absolument plus bouger. Parce que s'ils bougent, c'est flou, on fout en l'air la photo, on doit tout remettre, parce que voilà, ça se passe comme ça. Et j'adore, c'est vrai, ce genre de... À chaque fois, à chaque image, en fait, c'est une nouvelle aventure, parce que tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Quand tu attends ton temps de développement, on est tous là, on croise les doigts en se disant oh, « génial, j'espère que ça va marcher ». Donc, ça peut être... Il y a des prises de vue là-dedans qui ont été faites juste avec deux images, d'autres avec cinq ou... Sinon, il faut partir au milieu du pack de films pour trouver une pellicule qui va marcher. Parce que c'est vrai que chaque film, c'est complètement organique. La chimie, elle est totalement organique. Et même d'une photo à une autre, tu peux avoir ou un petit peu selon un tout petit mouvement de lumière ou quelque chose, un peu plus bleu, un peu plus... Non, c'est ça qui est assez génial.
Ouais, c'est quand même contrainte max, hein, la photo instantanée. Alors moi, je me suis rendu quand même sur Internet, hein, pour essayer de trouver des grands formats d'occasion périmés. Et j'ai trouvé un gars sur Le Bon Coin qui actuellement, il vend 3 boîtes de Polaroid 20-25 périmés, donc des Polapan et Polacolor. Et les 3 boîtes sont quand même affichées au prix de 800 €. C'est quand même, c'est du délire absolu. Et par contre, quand on se balade sur le site actuel de Polaroid, il y a toujours une page qui propose donc des plans films 8, 10 ou 20, 25 cm. Alors, il n'y a plus de stock malheureusement. Et le prix affiché était de 190 € pour 10 photos, ce qui revient à peu près à 20 balles, grosso modo. La photo en 20-25, si un jour, ça jamais, ça revient en stock. En tout cas, ce qui est super chouette, donc avec les petits formats, hein, qui sont proposés soit par Polaroid, soit par Fujifilm, c'est qu'il y a plein de déclinaisons possibles. On va trouver de la couleur, évidemment, mais depuis assez récemment, Fujifilm propose aussi du noir et blanc. Il y a des péloches qui vont être un peu teintées, et puis... voilà, les constructeurs, ils s'amusent beaucoup avec les cadres, hein, qui entourent, qui cachent la chimie et qui entourent le tirage final. On va trouver des kits avec des cadres décorés, avec des thèmes genre Spider-Man, Fiesta, machin, truc bidule, ou des trucs un peu plus épurés avec des cadres de couleurs.
Et puis, il y a tout un écosystème, hein. Il y a des albums qui existent après pour ranger tout ça. Quand on met le nez dedans, c'est impressionnant. le film My Fujifilm, Enfin, le site My Fujifilm, c'est une jungle. Hein.
Bon, en tout cas, une fois qu'on on a choisi un peu le format de photo qu'on souhaite faire, bon, il faut maintenant évidemment s'intéresser à l'achat de l'appareil pour les réaliser. On s'est entretenu avec Jérôme Geoffroy, qui a écrit un ouvrage sur la photo instantanée qui s'appelle Pola & Co, qui est paru chez Dunod en 2017 et qui gère également le site argentique.net. On lui a demandé qu'il nous donne quelques conseils pour faire le bon choix d'appareil photo. On l'écoute.
Alors, les appareils photo instantanés, il y a 3 marques qui vont proposer des modèles. On va avoir Fuji avec les Instax, Polaroid avec les Now Generation et les Polaroid Go. Et on va avoir Lomographie qui propose aussi toute une gamme. Si vous voulez acheter un appareil photo instantané, il faut se demander ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire de la photo de famille, des copains, partager ces photos avec un rendu, avec des couleurs qui ressemblent à ce qu'on a l'habitude de voir. L'Instax Mini 11 ou 12 de chez Fuji sont très bien, ils ont des modes selfie, on va pouvoir tendre les bras, on va pouvoir se prendre en photo. Tout est optimisé pour avoir un bon rendu. On va pouvoir avoir une gamme ensuite un petit peu supérieure chez Instax. Alors, pas en termes de qualité, par contre, on va avoir des petites options, des corrections d'exposition, on va pouvoir éclaircir, assombrir sa photo. Et si on veut du grand format, on va avoir l'Instax Wide. Mais mon préféré chez Instax, ça serait le SQ1, qui est un appareil photo, pas beaucoup d'options, mais un format épuré, carré, donc c'est l'Instax Square, dans la gamme Polaroid. Alors eux, ils ont pas beaucoup de modèles. Leur Polaroid avec le E-Type au niveau du film, c'est un seul modèle avec un flash plus puissant. Ils avaient un flash qui était pas très puissant au tout début, donc ils sont améliorés par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant avec le Polaroid, c'est la manipulation du film. C'est-à-dire que si on veut être plus créatif et avoir vraiment cette sensation d'être un créateur en mettant les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever l'émulsion, la remettre sur du papier, on va pouvoir toucher le film avec beaucoup plus de créativité, on va vraiment pouvoir s'amuser aussi avec ce type de film. Voilà, le film Polaroid a toujours son intérêt, mais il faut bien avoir en tête qu'il a un rendu beaucoup plus doux que le film Instax. Et pour en revenir à l'homographie, ils ont des appareils, j'en ai un moi perso, le Lomo Magellan, qui a un objectif de 21 mm, qui a une très bonne netteté, il a un objectif en verre, et on va pouvoir faire des photos. J'ai même fait de la photo de rue avec en noir et blanc. Voilà, il y a une gamme aussi d'accessoires. On peut faire de la surimpression. Ils ont un accessoire qui permet d'avoir une personne. On peut avoir deux personnes sur la même photo. Voilà, il y a aussi un côté créatif, mais avec du film Fuji Instax.
Bon, ce qui est cool dans la photo instantanée, c'est que même si les films sont très chers, les appareils sont beaucoup plus abordables que les boîtiers dont on a pris l'habitude, Benjamin, de parler assez micro. Toi, Lisa, le boîtier que tu utilises le plus pour la photo instantanée, c'est lequel ?
Oh, j'en ai plusieurs, parce qu'effectivement, selon les formats, j'ai même commencé, j'avais fait toute une exposition qui s'appelait « Correspondance », où là, carrément, c'était du Pola 35 mm.
Ouais.
C'était de la diapositive, 40 ISO. Donc là, il ne fallait pas bouger non plus.
Et le sujet ne bouge pas, le photographe non plus.
Non, personne ne doit bouger. C'est quand même extraordinaire, mais ça ressemble vraiment à ce que j'ai aimé dans cette pellicule. C'est que c'était comme un autochrome, finalement. On avait l'impression de retrouver un peu ces sensations-là. Donc ça, effectivement, pareil, j'en ai encore du périmé. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais... Ça, c'était pour c'est Nikon. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un Olga transformé avec un dos où là, je peux mettre maintenant du Fuji. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un 180, ça, c'est génial aussi. Ça, c'est une grande chance. Et ma chambre, mais qui est un peu plus à la retraite, effectivement.
Et là, tu es venu avec un petit appareil ce matin.
Et ce que j'adore et que j'ai tout le temps avec moi, c'est un Instax Square SQ20 ou sinon les Instax SQ10. Mais le Instax SQ20, c'est vrai qu'il a c'est un hybride en fait. Donc je peux autant faire mes tirages que d'avoir il y a une petite carte dedans. Donc ça fait les deux.
Oui, tu visualises tes images, tu choisis ce que tu vas tirer. Et pourquoi c'est le format carré que tu préfères finalement ? C'est en termes de composition.
Oui, puis je trouve que c'est vrai que c'est un joli format. Ce format, c'est pas forcément. Oui, c'est chouette comme format. C'est rigolo, c'est ludique en fait, c'est sympa.
Et toi, qui as une grande expérience de la photo instantanée, c'est vrai ça qu'il y a une différence de rendu avec les films actuels Instax et Polaroid ?
Oui, alors il y a toujours eu une différence. C'est vrai que les films Polaroid sont souvent plus chauds. Alors que les films Fuji, même voilà, pour tous les films, ça a très souvent été comme ça. On tendance à être un petit peu plus froid. Et c'est vrai que la chimie Fuji est très stable. Donc, effectivement, il y a ce côté... ils ont une chimie très stable.
Oui, puis il disait aussi, Jérôme Geoffroy, qu'il y avait un rendu plus doux chez Paula. Mmh. Et c'est vrai, ouais, moi, c'est ce que j'observe aussi. Alors, ça tient peut-être à ça. Peut-être que c'est moins stable, ou je ne sais pas, ou peut-être que les optiques sont tout simplement moins piquées.
Ah bah, en fait, c'est vraiment lié à la chimie du film. Et c'est vrai qu'avec Polaroid, ça a toujours été un petit peu plus chaud, un peu plus... des contours pas forcément... Après, ça dépend toujours de l'entrée de lumière, mais c'est vrai qu'ils sont plus imparfaits, je dirais, techniquement.
C'est peut-être ça qu'on
chimiquement
veut. Le plus imparfait possible.
En tout cas, techniquement, tous ces appareils, ils sont extrêmement rudimentaires. Finalement, on a un petit viseur optique toujours hyper bien centré. Sur la face avant, on a un petit miroir qui peut permettre de faire des selfies. Si besoin, il y a un petit flash automatique, mais bon, voilà, faut pas photographier un truc qui est trop loin parce que la portée est quand même assez limitée. On a le déclencheur, évidemment. La mise au point, on oublie. Hein, on travaille à l'hyperfocale, on met tout à plus de 30 cm et normalement, tout devrait être dans la zone de netteté, obturature fixe, ouverture fixe, obturateur automatique. C'est vraiment la base de la base de la base, hein, ces boîtiers.
Bah ça vaut pour le Mini 12, par exemple, si on est chez Fuji, hein, dans la gamme Instax. C'est vrai qu'on a l'impression, on est dans l'univers des appareils jouets, hein, des toy caméras, comme on dit. C'est un petit peu tout plastique et très facile à prendre en main avec ce petit miroir, comme tu dis. Et puis on presse et franchement, les possibilités de probabilité de rater la photo sont très, 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 très minces. Après, quand on va plus loin dans la gamme et en bout de gamme, on commence à avoir des appareils un petit peu plus perfectionnés quand même. Hein. Entre le SQ1 et notamment le Mini Evo qui vaut aujourd'hui 200€, là, on est quand même avec un appareil numérique, un écran arrière. Il y a toute une batterie de filtres, d'effets, de fonctions. Là, ça demande un petit peu plus de prise en main, on va dire.
Lisa, est-ce qu'il y a des petits pièges à éviter à la prise de vue avec ces appareils Instax?
C'est souvent, il faut qu'il y ait quand même une grande source de lumière. Ouais. C'est toujours...
Paysage de nuit, on oublie. Hein.
Après, on peut s'amuser. Hein.
le flash un petit peu dégueulasse en soirée, c'est un rendu sympa
oui,
aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'on est assez proche. Mais bon, c'est vrai qu'il faut... Il faut toujours... c'est vrai qu'à la lumière, c'est toujours plus sexy, ces photos. Mais après, c'est vrai que nous, on avait le high zone pour nos photos de fête en 2000.
Ça peut être ça peut être un parti pris, quoi. La photo au flash, le rendu fromage blanc sur la peau, ma foi, faire
de
des séries un peu marrantes, quoi.
Bah, y a quand même un piège hein, qu'il faut éviter, notamment si on met ces appareils dans les mains des plus jeunes. C'est que comme le viseur est décalé, qu'on n'a pas d'écran, tout ça, il faut quand même éviter de mettre son doigt au niveau de l'objectif. Moi, avec mes enfants, enfin avec mon fils surtout, parce que ma fille, elle n'a pas encore l'âge de tenir un appareil photo, c'est quand même arrivé une paire de fois de voir apparaître son doigt sur la photographie finale. Lisa, combien de temps il faut attendre finalement une fois que la photo elle est sortie pour la voir apparaître?
Alors ça dépend de la température extérieure souvent, mais c'est vrai que pour les films Fuji, je pense que c'est à peu près une minute. Ils sont assez...
C'est un truc de progressif, quoi.
C'est assez progressif.
Donc, faut pas baliser quand on voit sortir le tirage blanc, le foutre à la poubelle et
pas
recommencer.
Pas du tout. Faut attendre. Il faut attendre une minute, ce qui paraît fou aujourd'hui.
Et alors, cassons quelques mythes ou alors on peut les entretenir au choix.
Est-ce non, le casse.
Est-ce qu'on les secoue
Non.
Bon.
Surtout pas.
Est-ce qu'on les retourne sur la table? Est-ce qu'on les laisse dans l'obscurité? On les glisse dans une poche avant le temps qu'ils se révèlent?
C'est tellement lié à chaque fois à la température. Mais c'est vrai que ce mythe de secouer le polar...
Bah,
en fait...
Ça fait tesson de la chimie, moi, ça me paraît tout à
oui,
fait logique.
Oui, mais c'est génial,
comme truc,
parce que quand on observe bien certaines des photos, il y a comme des espèces de ça part, en fait, la chimie.
Comme un liquide qui a glissé.
Exactement, ouais. En fait, c'est le pouce qui a trop secoué. Donc non, idéalement, c'est de les laisser... les Instax, la chimie est très stable. Donc on peut les poser même au soleil, ça se développera un petit peu plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est la température qui fera tout. Ce ne sera pas les mêmes conditions au pôle Nord.
Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que bon, là, évidemment, on ne développe pas ça dans cette émission, mais le procédé chimique qui se cache derrière les Instax ou les Polaroid. C'est un truc de maboule, c'est vraiment de la haute, haute, haute technologie.
Ah oui, c'était un génie.
Bon, alors, maintenant, on va parler usage, parce que bah, voilà, ces petits boîtiers, aussi simples soient-ils, permettent de faire beaucoup de choses et des choses très créatives. On vous propose d'écouter le témoignage d'un photojournaliste qui s'appelle Jérémy Lampin, qui a réalisé tout un projet avec des appareils photo instantanés sur les routes du Tour de France l'année dernière.
Alors effectivement, j'ai travaillé j'ai fait un projet sur les routes du Tour de France. En fait, je voulais savoir comment allaient les Français après 2 ans de Covid. Et la meilleure manière pour moi de le savoir, je me suis dit un événement qui serait pas mal et rassembleur, le Tour de France, parce que c'est un événement gratuit. En plus, ils sont au bord de la route. Donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'aller les rencontrer à ce moment-là, pendant cet événement sportif-là. C'est un projet que j'ai mené comme un vrai reportage photo, parce que moi, je suis vraiment reporter photographe. Hein, je suis photojournaliste, comme on dit, avec une carte de presse. Et une fois que j'avais eu l'idée, je me suis dit, mais à quel format je peux le faire, parce qu'il y avait le Tour de France avait été notamment couvert par plusieurs photographes de renom comme Harry Gruyère, Robert Capa, Depardon et d'autres. Et je me suis dit, il faut que je sorte un peu du lot, que je fasse autrement. Et donc, j'ai décidé de m'orienter vers l'instantané et l'instax, parce que tout simplement, il y a 5 ans, quand j'avais vu pour la première fois le Tour de France qui passait à côté de chez moi, je me souviens d'avoir cette vision qu'on a tous eu à un moment, c'est-à-dire que quand vous voyez les coureurs arriver au loin, en fait, au départ, ils sont flous et quand vous les voyez passer, ça va tellement vite que vous n'êtes pas sûr d'avoir identifié ce que vous croyez. Et je me suis dit, mais c'est un peu comme l'image instantanée, c'est-à-dire que par moment, quand on fait une photo avec ce type d'appareil, on a des surprises et on n'est pas sûr, entre le déclenchement et ce qui sort, d'avoir l'image qu'on avait en tête. Et puis, c'est aussi l'appareil de monsieur et madame tout le monde, quoi. Des années 2000, on avait tous des Polaroid dans les années 90. Et comme là, maintenant, ça revient bien, c'est facile de s'en procurer. Je me suis dit, ça serait aussi intéressant d'avoir ce type d'appareil pour ça, parce que ça a un côté déjà sympathique, off-cool. Et pour aborder les gens, c'est d'une simplicité génialissime. C'est-à-dire que quand vous dites, voilà, je fais un projet, je voudrais savoir un petit peu pourquoi vous êtes sur le tour, racontez-moi comment ça se passe pour vous, etc. Parce que j'étais parti aussi avec un carnet et puis mon petit crayon. Quand les gens, ils me voyaient arriver, ils rigolaient parce qu'ils ne croyaient jamais que j'étais photographe professionnel accrédité. Et je leur expliquais le projet. Et du coup, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que une fois la relation établie qui va très vite avec ce type d'appareil, c'est-à-dire qu'on casse une barrière, c'est-à-dire que les gens n'ont pas peur de l'appareil photo. En plus, derrière, vous pouvez leur offrir une image. Donc ça a pas de prix. Et à chaque fois, j'ai eu plus d'une fois, soit ils voulaient me payer, soit ils voulaient m'inviter à boire un coup. Et là, j'ai exactement travaillé de la même façon, comme si j'avais un appareil photo numérique, mais à l'instantané. Donc après, je me suis adapté aux appareils parce qu'il y a un petit problème de parallaxe, c'est-à-dire ce que vous visez n'est pas ce que vous allez avoir au rendu parce que le zoom est décalé. Donc là, il a fallu que je m'entraîne quelques mois avant avec ce type d'appareil pour être sûr d'être bon photographiquement parlant. Et j'ai pu faire tout ça aussi, je tiens à le souligner, parce que j'ai eu le soutien de Fujifilm France qui a cru en ce projet et qui me dit Jérémy, on te suit.
Alors, à noter hein, que si vous voulez voir de vos propres yeux ce travail photographique de Jérémy, il sera exposé cet été dans le cadre des promenades photographiques de Blois, ainsi qu'à Ménard et Saint-Dié-sur-Loire. Donc voilà typiquement un projet d'usage avec la photographie instantanée. Évidemment, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'usage, Lisa, avec la photo instantanée? Que ça soit dans une approche artistique ou dans une approche très grand public amateur.
Je pense que c'est vrai que ça éveille chez chacun des sensations où chacun finalement trouve son interprétation, ce moment suspendu, un autre rapport au temps. C'est une photo aussi un petit peu plus poétique, je trouve, puisque comme de fait, on ne la maîtrise pas forcément à 1000%. Ça laisse place, oui, et puis pareil, c'est exactement ce qu'il disait, cette interactivité entre les gens.
Cette notion de partage, elle est vachement intéressante, je trouve.
C'est magique, avec, c'est vrai, ouais, avec la photo instantanée.
on partage avec l'objet en plus qui interpelle.
Exactement.
Qui décrédibilise sur le moment, mais qui du coup rend l'interaction plus ludique et plus spontanée probablement, qui permet d'obtenir du coup des clichés qu'il n'aurait jamais obtenus avec son appareil traditionnel de photojournaliste. Et le fait de pouvoir donner aux gens finalement une trace. Souvent, quand on est photographe en numérique, on peut aller au bout du monde et puis prendre des photos de certaines personnes qu'on ne recroisera jamais. Oui, il m'est arrivé dans certaines contrées, au fin fond du Bénin, du Groenland, de prendre une photo numérique et d'avoir avec moi mon instantané et de refaire la même photo et d'offrir le tirage instantané aux personnes. Et là, mais c'est l'impression d'avoir fait un cadeau extraordinaire et qui est pourtant d'une simplicité
Oui, c'est pour ça, c'est vraiment un rapport très universel, finalement. Très Absolument. Essentiel et très universel.
Ouais.
Et c'est vrai, c'est un peu comme lorsqu'on voit une Fiat 500, bah, on sourit forcément. Bah, c'est vrai que...
Exactement.
C'est vrai que...
On n'est pas pris au sérieux.
Oui, c'est ça. c'est vraiment ça. Ouais, donc,
ça a un succès monstre. Hein, parce que bon, je ne sais pas si vous avez fait quelques mariages ou réception, cérémonie, fiesta.
Oui, il y a tout un business aussi là-dessus.
Ces dernières années. Les photobooths. Voilà. Donc pour ce qui est de l'événementiel, la photo instantanée, c'est quand même chouette. Il y a même des boîtes qui sont spécialisées, donc, notamment quand on prépare son mariage, et qui peuvent vous louer une série de 10 Instax avec des péloches que vous pouvez poser sur les tables et les invités. Voilà, ils s'amusent avec ça pendant le repas. Ils font des photos. Alors, vous leur donnez ou vous les gardez, c'est vous qui décidez. Mais c'est un grand succès aussi dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. Ou à prévoir, en même temps qu'on prend les tirages, toujours un petit feutre. Parce qu'on peut aussi les annoter, on peut jouer, on peut laisser des mots. C'est vraiment un outil assez créatif.
Oui, sans forcément énormément de contraintes. Enfin, maintenant, avec les appareils... C'est moins de matériel. Enfin, voilà, il y a plein d'interactions assez incroyables. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'il y a quand même eu... C'est un peu, je fais toujours un petit parallèle entre la musique avec ce retour au vinyle, par exemple. C'est vrai que la musique a été un petit peu en avance sur ce qu'a vécu la photographie. C'est-à-dire qu'on est passé de la cassette au CD, avec justement, pareil, avec un espèce d'engouement maintenant pour le vinyle. Et la photo instantanée est en train de vivre ça. Mais c'est vrai qu'entre le moment où il y a eu l'arrêt pour tous les professionnels, enfin la photo instantanée professionnelle, et le retour maintenant à cette photo qui est effectivement est ou dans les événements ou.
Oui, puis il y a des ponts à faire hein, sur ce retour au rétro entre la musique, entre la photo. On le voit aussi d'ailleurs, les fabricants ressortent des appareils. Bah, Fuji conçu des appareils avec des lignes un petit peu rétro, les fameux X100. Sont des appareils hybrides à visée un petit peu télémétrique aussi, enfin visée réelle et visée hybride avec un look de boîtier télémétrique des années 60. Nikon ressort un ZFC aussi qui emprunte à son FM2.
Et puis si tu pousses le truc, voilà. T'as Leica qui ressort en argentique et Pentax qui est en train de travailler sur un Pentax,
qui annonce un réflexe argentique fin 2023 quand même.
Compact, ça a évolué un petit peu, le premier boîtier ce sera un compact.
En tout cas, un appareil argentique fin 2023. Donc bon, là, on est en plein dans la vague rétro.
Et puis, pour en revenir deux secondes là sur la photo instantanée, pour les enfants, pour les initier à la photographie, c'est une autoroute, hein, franchement.
Alors une autoroute qui,
c'est quand même plus sympa que de faire ça avec un smartphone, quoi.
Confier ça à un enfant, l'autoroute va coûter pour le coup très très cher.
Il faut encadrer, il faut mettre des péages, il faut des limitations de vitesse, tout ça. Mais c'est magique et évidemment, ils adorent. Alors si on sort un peu de cet usage, on va dire un peu grand public de la photo instantanée, on peut faire des choses aussi très créatives en technique spéciale hein, d'une certaine façon. Et toi Lisa, tu les tortures littéralement les photos instantanées. Tu peux nous expliquer ce que tu fais subir à ces pauvres photos?
Alors ça dépend, c'est toujours pareil parce que c'est vrai qu'il y a quand même, je pense, j'ai essayé des gammes et tellement d'appareils allant du Stenopé Polaroid quand même qui a existé. C'est vrai qu'il y avait le côté, parce que Polaroid aussi à la base, c'était aussi une photographie des films médicaux. Donc il y avait un aspect scientifique et médical. Donc ça, c'est pareil, j'ai essayé justement ces grandes photos qui sont comme une espèce d'énorme diapo avec un plastique où j'ai fait faire d'après des tirages Cibachrome de très haute qualité. Donc, du coup, on sent bien le...
petit contraste.
Oui, le petit contraste. Mais c'est vrai que c'est ça qui est très amusant parce qu'il y a un rapport à la matière. On touche, donc si on a envie de... Là, la photo, par exemple, du musicien Chassol, c'est une photo où j'ai pris juste du bic. Et c'est vrai que je me suis amusée à griffonner un peu lorsqu'on est au téléphone avant, à l'époque du SX70. On griffonnait toujours sur... Donc, il y a plein de possibilités. Il y a les transferts.
Ah oui, le fameux transfert Pola. Ça, en grand format, ça en jette.
Ah oui, ça, c'était impressionnant. Mais bon, il ne fallait pas rater non plus parce que...
ouais, un peu compliqué, un peu cher. Non, mais il y a plein de gens qui disent, il les gratte, il les brûle. Ça donne des effets complètement surréalistes. C'est un côté un peu random, la photo instantanée, qui est quand même... super appréciable.
Oui, puis on peut aussi imaginer de faire de belles mosaïques. Ça marche très, très bien aussi avec plein de polas, des expositions multiples, de la surimpression. Enfin, il y a pas mal d'effets hein, qui sont possibles.
Il y avait Daido Moriyama qui avait fait une exposition extraordinaire où il avait tout reconstitué sa chambre, justement, avec que du SX70. Ça, c'était extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il faut s'amuser, en fait. Il faut... Alors, c'est vrai que parfois, d'une façon professionnelle, moi, c'est vrai que je dépasse totalement les contraintes techniques. Ce n'est pas ça que je cherche là-bas, c'est sur un film instantané. Et c'est vrai qu'on peut s'amuser, faire des collages, faire... Bon, faut pas trop les découper quand même, parce qu'il y a quand même de la chimie dedans. Donc, c'est pas dingue, mais il y a plein de choses à faire, effectivement, c'est vrai.
Bon, on va conclure sur ces mots et on passe à la suite de l'émission en attaquant le débrief. Nous sommes toujours avec la photographe Lisa Rose pour parler photo instantanée. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Lisa, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission, d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'il y a de magique dans la photo instantanée ?
Toutes ces vertus, finalement, d'être, comme on a dit tout à l'heure, interactive, joyeuse et universelle, indémodable, parce que ça marche toujours avec de 1947 à aujourd'hui, ça procure toujours ces sensations. Et c'est une technologie, une chimie complexe, finalement, pour un rapport à la photo extrêmement simple, finalement.
Pourquoi est-ce que tu as adopté la photo instantanée pour une partie de ton travail ?
Parce que c'est une alchimie, je dirais, de l'intemporel et de la non-maîtrise, finalement. Et ça laisse une grande part au hasard. Et c'est ça que j'adore et c'est ce que je partage aussi avec mes modèles, souvent.
Et quelles sont les raisons, d'après toi, qui font que les jeunes, aujourd'hui, se sont emparés de l'instantané ?
Je pense que c'est... justement, je pense que ça fait vraiment... ça fait écho à des sensations. Et je pense que des sensations c'est amusant, c'est exaltant. Enfin, je pense qu'il y a plein d'adjectifs qu'on ressent. Et je pense que la photo instantanée... crée des sensations et on s'amuse bien, surtout.
Oui, ça, c'est vrai.
Pourquoi est-ce que, finalement, le mot « pola » est devenu un terme, on va dire, générique pour parler de photos instantanées ?
C'est vrai que c'est gravé dans un inconscient collectif qui se transmet un petit peu de génération en génération. Et puis, comme on mélange un peu et le procédé et le format... Et ça reste, finalement, c'est ça. Donc maintenant, il faut dire Pola et Instax.
Oui, puis la raison tient sûrement à l'invention de la société et à la création de la société Polaroid par Edwin Herbert Land en 1937, hein, puisque tout part de là.
Ouais, c'est un peu après comme tous ces objets un peu cultissimes qui prennent leur nom, le fameux bic, le frigidaire, et il y en a...
Q-tip.
Et il y en a le Q-tip.
On utilise beaucoup avec les transferts de Polaroid.
Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Combien ça coûte environ un appareil photo instantané actuel, un Instax, et combien ça coûte surtout de faire une photo ?
La photo, c'est cher.
La photo, c'est cher. À peu près 1 € chez Fujifilm, entre 2 et 2,5 € chez Polaroid.
Ouais. En fait, on donnera à nos auditeurs peut-être le même conseil que quand on choisit une imprimante grand public, c'est-à-dire regarder le coût des consommables. Parce que a priori, l'appareil est abordable, et c'est le cas. Hein, les Instax Mini 12,
80,
c'est à peu près 80 euros.
Ça doit monter à 300 pour les plus beaux modèles, peut-être, quelque chose comme
voilà,
ça.
Voilà, chez les Lomo, on ira jusqu'à 300 euros. On trouve de beaux appareils à la fois numériques et qui permettent aussi d'imprimer des photos à environ 200 euros pour le Mini Evo chez Instax. Mais il faut regarder effectivement le coût des consommables. Et donc là, on est sur, comme tu l'as dit, environ 1 euro le tirage Instax et 2,5 euros le Pola. Faut pas déclencher, faut pas mitrailler.
Mais ça a toujours été comme ça. C'est ça qui est assez étonnant.
Même à,
c'est que ça a jamais
même
changé.
À la grande époque, c'était cher.
Ouais, même à la grande époque, les appareils faits pas pour les professionnels n'étaient pas forcément onéreux. En revanche, le film l'a toujours été. Mais à la fois, je pense que c'est. Il faut le prendre du côté super positif. C'est qu'on fait moins de photos,
exactement.
On réfléchit plus à sa photo, et en plus, on a son laborantin, on a un mini-labo, on a un inventeur et de la science géniale dans ce petit carré, ce square. Et il faut vraiment prendre une... Enfin, c'est une autre matière, une autre manière de créer, finalement, et de faire une photo.
Oui, on sacralise un moment, quelque part. Un moment où on déclenche...
Donc, c'est plus économique.
Ouais, à la fin, oui.
Au final, en fait, c'est plus qualitatif. Enfin,
vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu.
Pardon.
C'est pas grave.
Je me suis emballé.
Lisa, quel type d'usage on peut faire de la photo instantanée en tant qu'amateur ou même, pourquoi pas, photographe professionnel ou artiste-auteur ?
C'est pareil. Si on est très heureux que son modèle est content et qu'on aime sa photo, non, je pense que c'est un vrai rapport assez différent à... Ouais, un peu au temps, à la technologie, voilà. C'est,
Et Benjamin, toi, tu nous disais dans l'émission que tu emmenais toujours un instantané au cours de tes voyages pour laisser une trace.
Oui, tout à fait. Alors bon, quand on calcule un petit peu le poids de ses bagages, etc., c'est pas forcément toujours évident de le faire, mais un petit boîtier Instax ou parfois j'amène mon SX70 sur des destinations qui me tiennent vraiment à cœur avec une cartouche. Et ce ne sont pas des polas ou des instantanés que je vais prendre pour moi, mais que je vais donner aux gens que j'aurais pris en revanche en photo avec un appareil numérique traditionnel, ce qui permet de laisser une trace, d'être dans du partage plutôt que de prendre, parfois dans certaines mêmes civilisations, on dirait voler une photo. On laisse quand même un souvenir et puis ça crée sur le moment une belle interaction. Donc c'est quelque chose, si on peut le faire, que je recommande.
Est-ce qu'il y a des pièges à éviter à la prise de vue quand on utilise un petit instantané, que ce soit un Instax ou un Polaroid ?
Souvent, c'est en photographie, on se rend compte quand on fait une erreur, finalement, l'expérience sert à se dire « Ah non, je ne referai plus jamais ça ». Mais bon, c'est vrai qu'après, il faut faire un petit peu attention pour les viseurs, il ne faut pas se mettre trop la pression, effectivement, en se disant « Ça va être cette image, comme ça, il faut... » Un peu prendre ça avec légèreté, je pense.
Puis il faut quand même une belle quantité de lumière, sauf à déclencher le flash, pour être sûr d'avoir une image à peu près lisible.
Il faut plus y a de lumière, plus c'est pas mal finalement.
La photo instantanée étant aussi souvent pratiquée dans des moments de joie festifs qui peuvent dans certains cas être un peu alcoolisés, faire garde, faire un peu attention à ne pas mettre son doigt devant l'objectif au moment où on prend la photo. Ça paraît évident, mais ça arrive quand même très souvent.
Ça fera un flou artistique.
Oui, un bokeh de doigts.
Oui, puis ce sont peut-être des erreurs qui vont générer une patte et qui vont engendrer un nouveau style. Donc, c'est toute la magie de ces appareils-là.
Vous me faites rêver. Lisa, pour terminer, est-ce qu'il y a des traitements un peu spéciaux qu'on peut envisager avec la photo instantanée ?
Je m'interdis aucune utilisation, en fait. C'est-à-dire que je peux autant faire un livre avec, des très grands formats. Ça reste souvent mon principal... support original, finalement.
Mais parmi les autres usages, on peut citer aussi les mosaïques, on peut parler de surimpression, on peut essayer de cramer un petit peu ces tirages,
les
mettre au micro-ondes aussi.
Ah oui, on peut, ça fait quoi,
y a,
ça
y a plusieurs
ça fait, je te fais tout fondre.
Ah bah vous verrez. Non, on peut tenter diverses opérations comme ça.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Lisa, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ?
Oui, Arthur.
Alors, on démarre tout de suite avec une question qui nous vient d'un dénommé Chris. Pourquoi est-ce qu'il faut secouer la photo pour la faire apparaître ?
Ah, pardon, il ne faut pas secouer la photo, justement. Il faut la poser, la laisser tranquille.
On peut dire à Chris de réécouter l'émission, hein, du coup, puisqu'on en a parlé.
Ça peut peut-être rentrer dans ces techniques un peu spéciales de torture.
C'est un peu un inconscient collectif aussi, c'est pareil.
Ça peut donner un petit effet sympa, quoi.
Bah, c'est un mythe à détruire, hein, finalement. En tout cas, avec les Instax qui ont une chimie plutôt stable.
Qui est un peu plus rigide, ça marque moins.
Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il faut mettre, du coup, ces films au frigo ?
Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, selon plus il y a de la chimie et plus pas forcément, parce que justement, ça refroidit tout. Il y a plusieurs possibilités. Moi, je ne le fais pas, par exemple, mais j'ai quand même des films qui apparaissent pas forcément.
Et t'arrives à sortir des photos, apparemment. Oui, donc c'est rassurant.
Allez, on continue. Deuxième question qui nous vient d'une Léa. Comment est-ce que les célébrités appréhendent ton travail argentique, elles qui veulent souvent un contrôle absolu de leurs images?
Finalement, ça crée quelque chose d'encore plus libre. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, par exemple, pour la parade colorée, les artistes les voient. Et donc, en fait, on fait carrément tout de suite le choix ensemble. Donc, c'est déjà fait, le choix est fait. On garde la photo qu'on aime. Et puis, ça laisse aussi, un rapport de confiance et de vrai échange où on n'a pas forcément besoin de tout voir. Et de...
Ah. Bah, on renvoie du coup à ton livre. Hein.
Tu peux quand même finir tes phrases. Hein. On n'est pas non plus...
Non, mais c'est vrai qu'on a l'habitude. Mais on renvoie du coup à ton livre, La Parade colorée, dans laquelle on peut voir de nombreuses personnalités justement photographiées. Et qu'est-ce que tu fais des autres images ratées ou qui ne figurent pas dans le livre ? Est-ce que tu en as donné quelques-unes aux personnes photographiées ?
Alors, parfois ça arrive, mais je les garde toutes parce que parfois il y a une petite différence. Et puis c'est vrai que les choix photos, c'est toujours... on peut en faire un à un moment donné, le lendemain, ça sera différent. Enfin, voilà, c'est très lié au moment et...
Allez, on continue. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Mouna. J'ai acheté un vieux Pola en brocante et il n'a jamais marché. J'ai dépensé une fortune en film pour faire des tests sans succès.
C'est ça la photo instantanée aussi, c'est qu'il faut toujours se transformer en ingénieux artisan, je dirais. Donc, je ne sais pas quel type de Polaroid, mais c'est vrai que souvent, ou le film, il n'y a plus la batterie, donc ça ne fonctionne plus. Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il faut tenter avec autre chose, finalement, peut-être.
C'est toujours risqué, hein, de toute façon, d'acheter des boîtiers comme ça. C'est la loterie. Hein.
Je sais que, par contre, les dernières productions de films Pola sont assez fiables. Sur mon SX70, j'étais assez content des résultats, alors qu'il y a eu... d'autres productions auparavant avec The Impossible Project étaient un petit peu plus aléatoires.
Ah bah complètement, ils revenaient à une chimie à zéro. Moi, ça m'est arrivé de faire une photo le matin, de revenir le soir, il n'y avait plus rien dessus. Ouais,
exactement. Exactement.
Et là, c'était une photo qui ne supportait pas la lumière.
C'était de
l'art
éphémère, mais poussé un peu à l'extrême. Ouais.
Ah bah oui,
ça me fait penser, chimie, Benjamin, on aurait dû mettre en ouverture de cette émission l'extrait des visiteurs au compte à Valérie Lemercier qui demande le polar.
Est-ce que vous avez un Pola ?
Un quoi ?
Un Pola, oui, Jack. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets.
Oh non, on n'a pas de Pola, non. Et puis je m'appelle Jacques-Henri, pas Jacques.
Non, mais... comprenez-moi, Jacquard.
Quatrième question, qui nous vient d'une dénommée Claire. Moi, je photographie avec mon smartphone mes photos Instax pour les poster sur Instagram. Est-ce que c'est pas un peu zinzin comme démarche, ça ?
Ben non, c'est très bien. Il n'y a aucune démarche. C'est chouette, justement, parce qu'il y a et le côté organique et le côté numérique. Et sinon, c'est très bien. Il faut se laisser très, très expérimental, parce que la photo instantanée, c'est expérimental. Donc, il n'y a pas de règles. Et c'est ça qui est bien. C'est l'alchimie du hasard, je dirais.
Ah, c'est pas à ces micros qu'on va te juger.
Hein, ça, c'est, sûr. C'est vrai que sur Instagram, les photos de photos instantanées où on voit le petit cadre, le machin, petite mise en scène de fond de table, un petit café, tatati, un petit rayon de soleil, c'est du like garanti, hein, mes amis. Et enfin, pour terminer, Lisa, une question de mes soins, une question qui tue. Cette semaine, la question est très simple. Instax Mini ou Instax Wide ?
Instax Wide ?
Allez, développe un peu.
Instax Wide, bah, totalement, totalement organique et pour les paysages avec beaucoup de lumière, c'est quand même très très beau parce qu'il a un grain, bah, la surface est plus grande, donc forcément, il a un très joli grain quand même.
Et petite pensée à Fujifilm, s'il vous plaît, sortez-nous un Instax extra wide, encore plus grand. On veut encore plus grand en photo.
4x5.
Instant.
20-25.
Un Instax panoramique, ce serait formidable.
Il bah, y a le jetable hein, qui est génial, mais il n'est pas ressorti en panoramique. Ça, c'est extra aussi.
Allez, on conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venue parler avec nous ce matin à nos micros de photos instantanées. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci à vous.
Quelles sont tes actualités, Lisa ?
Alors, il y a justement les filles gagnent du terrain pour l'association Sine Qua Non dans les City Stades. Donc, il y a le City Stade dans le 11e où il y a des Instax géants. On a fait les photos justement avec les jeunes filles dans un petit studio mobile, tout fait à l'Instax en plein milieu du stade. Donc, ça, c'est un chouette projet. Et puis, bah, je vais retourner à ma peinture, mon coloriage et mes multiples collages en essayant à chaque fois d'adapter parce qu'il faut à chaque fois se réadapter. Il faut toujours réinventer à chaque fois avec ce genre de support.
Ça marche. Bah, merci ça. Beaucoup. Bah non,
c'est
en tout
moi
cas.
Qui vous remercie.
La semaine prochaine, nous vous proposerons une émission entièrement dédiée à la photographie numérique noir et blanc et nous recevrons pour l'occasion le photographe Jean-Christophe Béchet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Instax, les appareils photo et imprimantes pour smartphone, Fujifilm, dédié à la photographie instantanée. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.